Salut tout le monde, je suis Léo Duff et je suis avec mes amis Romain et Manuel.
On est ses amis maintenant.
Non, mais c'est pour le podcast, ta gueule.
Ah, ok. Bonjour, bonsoir,
c'est ça va gars.
Salut Manuel, avec le micro c'est mieux Manuel.
Manuel qui est toujours à 1 mètre du micro avant de commencer le podcast.
Mais oui, mais c'est pour dire bonjour, machin et tout, on
parce
s'en
que
fout.
Vous savez ce qu'il fait ? Non, mais qu'on le dise aux gens quand même. Quand on commence le podcast, il a toujours son micro bien loin de la bouche parce qu'il n'est pas très pressé comme garçon. Et il est sur son téléphone et il joue au mot fléché parce que cet homme a 45 ans.
C'est faux.
Il regarde des comptes TikTok de voyance.
Ça, c'est vrai par contre.
Ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. La plus grande arnaque du monde. Moi, ça me fascine.
Ah oui.
Léo, ça m'inquiète.
Pourquoi ?
T'as prévu un sujet d'entrepreneur.
Bah non, mais attends, d'entrepreneur... J'ai volé des leçons à un entrepreneur.
Ah ok, donc en plus de ça, maintenant on assume. Quoi.
Mais c'est
avant, on pouvait faire en mode « on a un thread Twitter qui nous a intéressé
bah, ».
Alors
c'est,
qu'en
bah, c'est
fait...
ça, bah, c'est ça, on a toujours...
Bah, on a vu ce que ça donnait la dernière fois.
On a toujours... N'hésitez pas à l'écouter le dernier podcast, il était
vos gueules.
Très qualitatif.
Oh ta gueule.
Donc ce qui se passe, c'est que comme... Ah oui, je sais pas si on a donné l'alerte enlèvement.
Quoi ?
Pour Manuel Diaz, qui est disparu depuis à peu près une quinzaine de podcasts. Qui nous a apporté absolument aucun sujet depuis des mois.
Ah, c'est vrai.
Peut-être qu'il faut qu'on a oublié de lancer l'alerte enlèvement.
Mais
tu peux mettre le jingle alerte enlèvement, on l'a
écoute,
ou pas ?
Écoute, c'est parti. Ouais, non, c'était pas ça. Voilà, c'est l'alerte enlèvement.
Ah ouais, d'accord, bah, les gens vont pas nous prendre au sérieux. Pourtant, c'est
non.
Très sérieux, hein. Ça fait à peu près une dizaine de podcasts que Manuel n'a pas proposé de sujet.
C'est vrai, c'est une tactique de ma part.
Pour ne rien branler. Alors.
Non, pour que l'audience se rende compte de mon absence, et apparemment, elle le note.
Est-ce que vous voulez que je commence par la... Oui, j'ai pas dit, du coup, c'est un trait Twitter, etc. Comme d'habitude, voilà, un entrepreneur qui donne des leçons de vie, des trucs qu'il a appris en 2022.
Qui est-ce ?
J'ai plus son nom, mais il y aura le lien dans...
Ah ouais,
le...
donc t'es vraiment une enflure.
Bah, je peux te dire ce que tu veux, c'est Elon Musk. Voilà.
D'accord, très bien.
Allez.
Non, mais il y aura le lien dans tous les cas dans la description, si vous voulez aller en lire plus. J'ai aussi rajouté des trucs, etc., évidemment. Première leçon. Sinon, comment ça va, vous ? On n'a pas... Je vais pas poser la question, ça va ?
Bah, ça va. Il n'y a pas plus frustrant. Manuel, ça va ?
Très bien.
Et Léo, tu vas bien ?
Moi, ça va bien, oui.
Ouais, t'es en forme ?
Ah oui, ça va bien.
Bon, on peut commencer du coup, peut-être.
Faut qu'on arrête de boire des verres de jus de pomme avant de tourner le podcast.
Il est tellement bon, ce jus de pomme.
C'est vrai, mais tu dis ça avec tous les jus de pomme, c'est ça qui m'inquiète.
Ouais, mais tu vois, enfin, bon, bref.
D'ailleurs, on a un auditeur passionné qui nous a proposé une alternative au jus de pomme.
Ouais.
Ah, c'est vrai, on n'a jamais répondu à son message.
Il faut qu'on prenne le temps de lui répondre.
De fou.
Maintenant, si tu veux, on fait même nos réunions pendant le podcast.
Donc, écoute, merci pour ton message. On est OK, en gros, on a juste...
Il faut que j'achète du PQ. Thomas, si tu peux isoler cette partie et me l'envoyer par message.
Quel enfer.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ok, allez. Première leçon. Faites-vous rejeter plus souvent. Vous faire rejeter signifie que vous tentez votre chance. Si vous ne vous faites jamais rejeter, ça veut dire que vous pourriez probablement demander beaucoup plus.
Ah, c'est le fondateur de Tinder.
Oui, tout à fait. Ça vous parle ? Toi, Romain, tu t'es fait jeter pendant des années. Pour ça que t'en es là.
Quelle horreur !
Non, mais je te voyais à la Paris Games Week, par exemple.
Oh, ta gueule, putain, ça remonte.
Aller demander à plein de gens, d'agences,
oui,
de boîtes, etc., machin, ce que j'aurais jamais fait. Mais du coup, moi, sans faire ça, je me faisais jamais accepter nulle part, puisque je proposais jamais rien, donc personne ne me voyait. Romain, sa stratégie,
je faisais le boulot à ta place,
d'aller faire chier tout le monde, pour ensuite que moi, j'ai un bracelet.
Exactement. Exactement, Léo faisait rien, et à la fin, je disais, on peut en avoir deux, et voilà.
Voilà.
Donc non, c'est vrai, c'est un bon conseil, mais je pense que derrière ce conseil, c'est surtout montrez-vous et testez vos idées en fait auprès ouais. des gens que vous allez rencontrer. Mais il vaut mieux ça plutôt que de rester tout seul dans son coin à se dire je crois que c'est une bonne idée et t'en parles jamais à personne et personne te dira quoi que ce soit du coup, donc t'évolueras jamais.
Encore un meilleur exemple, t'aurais pu ne jamais envoyer de message à Manuel.
Ah ouais, ça c'est
sûr. Parce qu'il y avait quand même de grandes chances pour que tu te fasses tège.
Heureusement, ce qui prouve que cette règle est une merde.
Heureusement, il était bourré ce jour-là, donc il a accepté un rendez-vous. Mais t'aurais pu ne jamais envoyer un message.
J'aimerais tellement qu'on réouvre ton agenda manuel et savoir quand je t'ai envoyé ce message et quand t'as répondu, qu'est-ce que tu faisais dans la journée. Genre, c'était une bonne journée ou pas, pour voir les chances que j'avais d'avoir un oui.
Personnellement, j'ai décidé de complètement oublier cette partie de ma vie.
C'est en fait. Vrai que ça tenait à pas grand-chose. Hein. Deuxième leçon ?
Bah oui.
Ok, bah j'attends votre aval. Hein, parce
ouais,
que,
de ouf wow.
Apparemment, j'ai pas votre temps. Deuxième leçon, investissez.
Non, mais moi, j'aimerais commenter la première.
Ah, ouais, tu vois, vas-y. C'est un retardement un peu. Vas-y.
Un peu retardement.
C'est pour faire chier.
Ça met du
J'attendais qu'il commence.
Vas-y.
Non, ce qui est important dans le fait d'accepter le rejet, c'est de aussi accepter qu'on puisse ne pas réussir.
Ouais.
Or, quand on entreprend quelque chose, tout le monde dans ton environnement te dit... pas tout le monde, mais beaucoup t'encouragent faussement, te disent « Allez, tu vas y arriver, ça va le faire, etc. etc. » Et en fait, personne ne te prépare au fait que tu vas devoir surmonter une quantité d'échecs et de refus importants avant d'avoir le début du moindre commencement d'un succès.
Ouais.
Et je trouve que c'est bien d'être plus réaliste, plus factuel et de préparer les gens au fait d'entendre des noms. Et que ça n'a rien de personnel, c'est pas contre eux, c'est juste que il y a des tonnes de gens, c'est pas leur focus pour l'instant, et que ton projet il tombe pas au bon moment, ouais. C'est peut-être pas la bonne thématique, etc. Et c'est pas grave, ton sujet à toi, c'est de trouver la personne pour laquelle ton projet résout un problème. Et donc pour ça, il faut tester ta value proposition, et pour la tester, ça veut dire que tu vas la fine-tuner tout au long du processus, et donc plus t'entends des noms, plus tu peux fine-tuner ta value proposition pour trouver exactement quelle est ta cible et quelle est ton audience.
Et est-ce que si tu te prends jamais de rejet, ça veut dire que t'évolues pas, que tu testes pas assez en fait, que tu pourrais aller beaucoup plus haut et que tu restes dans ta zone de confort où tu sais que les gens vont accepter ce que tu proposes?
Certainement. Oui.
Tu veux sortir avec moi?
Non.
C'est pas grave, j'ai appris.
Fait d'essayer.
Deuxième leçon.
Deuxième leçon.
Investissez sur
mais
vous.
Mais j'aimerais quand même rajouter quelque chose.
Investissez sur vous. Investissez dans des coachings, des cours, des livres, des formations. S'il n'existe qu'un raccourci vers le succès, c'est celui-ci. J'ai hâte d'avoir votre avis.
J'ai mis beaucoup de temps pour le réaliser, mais je pense que...
Ben on a vu.
Voilà. C'est non, mais en fait, c'est surtout qu'on... J'ai l'impression qu'on te conditionne à l'idée qu'une fois que tu sors des études... Ça y est, t'as fini d'apprendre, c'est fini, maintenant tu fais qu'exécuter, tu vas militer pour la retraite,
comme toi,
tu fais
court.
Ton petit, voilà. Je voulais la placer. Tu vois, tu te dis, je vais faire la même chose toute ma vie, mais parce que ça fera 10 ans que je le fais, bon, je vais être mieux payé qu'il y a 10 ans, hein, alors que je fais la même chose.
C'est voilà. Qui ce mec ?
Oh, beaucoup trop de gens malheureusement, mais non, je pense que c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fait on te dit...
Il y en a plein tous les mardis en ce moment.
À chaque fois qu'on te dit, tu sors des études, après tu auras un travail, et après tu fais que exécuter.
Ouais.
Et personne se dit, en fait, dans mon travail aujourd'hui, ok, certes, je suis épanoui et autres, mais peut-être que si je veux évoluer, il faut que je continue d'apprendre. Peut-être que même si j'exécute, super bien, à un moment donné, si j'ai pas plus de savoir que la personne que j'ai envie de devenir, je pourrais pas l'être, quoi. Donc, je pense que c'est très vrai, mais que tu mets un peu de temps à le réaliser parce que t'as besoin aussi, on est bloqué dans un truc où il n'y a pas assez d'expérience concrète. Quand tu fais des études, tu fais que de la théorie, tu fais très très peu de pratique, surtout dans l'éducation en France. T'as deux stages. T'as un stage quand t'as 16 ans de mémoire, et après t'as un stage quand t'es c'est quoi ? C'est la.
Je sais pas, moi j'en ai fait beaucoup plus.
Ah ouais ?
Bah oui.
Ah, parce que t'étais en pro.
Ouais.
Et ça, je trouve ça dommage que t'aies pas plus justement de pratique. Parce que ça te montrerait qu'une fois que tu fais de la pratique, quand tu sais bien le faire, t'es limité, t'as envie d'apprendre pour faire autre chose et pour mieux le faire. Donc en fait, t'es continuellement dans le devoir d'apprendre.
Manuel, toi, qu'est-ce que t'en penses de suivre des formations, d'aller voir des conférences, de prendre des coachings ?
Il préfère prendre un café avec un connard qui est youtubeur pour se dire « Tiens, c'est quoi youtubeur ?»
En fait, c'est frappé au coin du bon sens, c'est évident en fait. C'est-à-dire que l'objectif, normalement, dans une vie qui est quand même un battement de paupières, ça dure peu de temps en fait. c'est d'être un peu moins con que la veille. Donc si dans ta vie d'être humain, ton objectif n'est pas d'être un peu moins con que la veille, t'as déjà raté un truc, en fait. Et je pense qu'il y a différentes façons d'apprendre,
ouais.
D'où le fait qu'il y ait différentes filières. L'école a choisi une façon d'enseigner, en France en particulier, qui n'est pas tout à fait la même que dans d'autres zones du monde. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a particulièrement frappé, c'est que pour simplifier la façon d'apprendre, on regroupe les gens non pas en fonction de leur goût ou de leur capacité, mais on les regroupe par âge. Le critère de réunion pour constituer des classes, c'est l'âge. Déjà, c'est un précepte qui me pose un problème, personnellement. Parce que tu prends deux enfants de 11 ans, ça se trouve, ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre.
Mais toi, par exemple, ça ne se voit pas du tout que tu as 11 ans.
Non, ça ne se voit pas. Et donc, je pense que on va dire qu'il faut bien choisir une méthode. Donc, admettons que celle-ci, c'en est une. On t'a transmis des connaissances académiques. Bon, le niveau de l'éducation nationale ne faisant que baisser, on va dire qu'on essaye de transvaser dans la société des gens qui ne sont pas des sauvages. Mais il va falloir continuer à apprendre parce que le niveau est bas, quoi. C'est-à-dire ils savent presque plus écrire. Et presque, et ils savent quasiment plus parler. Hein. Je sais pas c'est quoi. Yo, t'es pas prêt. Vas-y, on en reparle.
Tu fais bien le jeune. Tu
vois, ouais, c'est vrai. Mais je pense.
Enfin, c'est n'importe quoi.
Enfin, tu l'es. Hein.
C'est une posture. Moi, je pense que la façon dont on se présente au monde a de l'importance. La première façon dont tu te présentes au monde, avant même d'ouvrir la bouche, c'est la façon dont t'es habillé. Il y a une démission sur cette question-là, en fait. Les parents ne font plus d'éducation sur cette question. Il n'y a pas de formalisme, etc., etc. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième façon dont tu te présentes au monde, parce que là, ça n'a aucun rapport avec ta richesse, ton niveau de vie, etc., etc., c'est la façon dont tu t'exprimes. Ça, c'est deux facteurs qui peuvent te faire gagner des points très, très forts. Après, la connaissance, ça s'acquiert, ça se travaille, l'expérience aussi. On peut pardonner un manque de connaissances, on peut pardonner un manque d'expérience. Mais si déjà tu te présentes au monde dans une forme à peu près appropriée au contexte, moi j'ai déjà reçu des candidats qui venaient en short. Autant vous dire qu'ils n'ont pas passé l'accueil. À un moment, si le signal que tu as envie d'envoyer, c'est de dire « je ne respecte rien ni personne » et « je ne comprends pas qu'on puisse me le reprocher », je ne comprends pas que dans la vie d'une entreprise, il y a un minimum de choses à respecter dans mon rapport aux autres individus, c'est un problème.
Mmh. Ah, mais du coup, là, tu vas...
Attends, ta gueule.
Vas-y, ouais, vas-y. Vas-y.
Et le deuxième élément, c'est si tu n'es pas capable de faire la différence entre tes discussions avec tes potes et de montrer que tu as un minimum de vocabulaire pour t'exprimer dans une langue tout à fait normale, je ne demande pas à ce que tu sois Molière, hein. Juste t'exprimer correctement, déjà ces deux éléments-là te font sortir du lot. Et c'est catastrophique que notre système éducatif n'arrive pas à livrer des gens qui ont au moins ces deux critères-là. Raison pour laquelle je suis pour l'uniforme à l'école publique.
Je pensais qu'il allait dire raison pour laquelle je me présente aux prochaines élections présidentielles.
Et raison pour laquelle je suis pour les cours d'éloquence dès le collège. En France, on adore l'écrit, on adore la dissertation, on adore la connaissance très académique, etc., etc. Mais l'expression orale, c'est extrêmement important.
Et toi, t'en as suivi des formations ? T'as pris des cours ? T'es allé voir des conférences ?
J'ai vu plein de conférences. J'ai suivi des formations. J'ai acheté des formations. J'ai mes auteurs préférés en B2B qui ont des learning centers online ou autres. Des enseignants ou des chercheurs qui sont dans certaines universités et qui font des MBA, certes payants, dans des universités que tu peux, et tu peux suivre ça en ligne. Voilà, j'ai fait des trucs comme ça.
Je te rejoins sur le fait que c'est du bon sens. Maintenant, moi, le souci que j'ai avec les formations, c'est que je trouve souvent ça coûte très cher. Et j'ai un peu l'impression que c'est plus un business qu'une envie d'apprendre des choses aux gens. C'est-à-dire qu'à mon niveau, j'ai du mal à trouver des trucs qui m'apprennent vraiment quelque chose.
Mais déjà, sans aller là-dedans, combien de personnes font le premier pas pour lire lire aujourd'hui, t'achètes une Kindle et tu prends des livres.
C'est là que j'apprends le plus, moi.
Voilà, par exemple. Juste pour contrer Manuel, je peux pas te dire ta gueule parce que ça marchera pas, tu vois.
T'as raison.
Mais juste pour contrer Manuel sur le truc des shorts, etc., de la présentation, etc. Je suis d'accord qu'il faut être toujours propre sur soi et tout ça, mais ça va pas, je trouve, avec la façon dont la plupart du temps tu t'exprimes quand tu dis... je juge par rapport aux compétences, le reste je regarde pas, ce que je veux voir c'est si les gens se dépassent, etc. dans la boîte. Je veux dire, à un moment donné, si t'as une personne qui a un short en été, ok, ça choque peut-être visuellement et autres, mais je veux dire, si la personne est très performante et que elle est pas dans des... Enfin tu vois, j'arrive
mais
pas à comprendre...
Ça me pose aucun problème dès lors qu'il fait du work from home. S'il vient dans un lieu qui reçoit des clients sur lequel il y a une vie en commun... des liens commerciaux, à partir de ce moment-là, il ne se représente plus lui-même, il représente la marque et l'entreprise pour laquelle il travaille. Mmh. Et donc, tu te dois un minimum de décence. Moi, j'ai aucun problème avec les shorts, c'est pas le problème. Mais...
Non, il en met, hein, Manuel, mais chez lui.
Ouais.
Si, si, chez lui, de temps en temps.
Mais je ne confirmerai ni n'infirmerai cette information.
Moi, je l'ai vu sous 40 degrés en costume. Je l'ai rarement vu avec un short. Hein.
C'est vrai.
Non, mais je comprends le prisme de tu représentes une entité.
En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le niveau d'effort que tu es capable de fournir pour comprendre que l'intérêt général vaut mieux que ton petit bénéfice particulier. C'est ça qui m'intéresse. C'est est-ce que tu es capable de fournir un effort, même si c'est pas parfait, même si c'est maladroit, etc., etc., parce que tu as compris que c'était nécessaire pour l'intérêt général de fournir cet effort au prisme de ton petit confort particulier.
Plus que le fait que tu transpires un peu des cuisses.
Oui, ça c'est pas à la rigueur, tu vois. C'est ça qui m'intéresse dans la démarche.
Ok.
Voilà. Tout à l'heure, je voulais dire un truc, mais j'ai perdu l'idée. Pour une fois, je t'écoutais.
Du coup, c'est quoi vos recommandations ? Il y a des sites sur lesquels on peut trouver des formations ? Est-ce qu'il faut mieux aller voir des conférences ? Ou alors, est-ce qu'on trouve plus d'infos dans les livres ?
C'est ça que je voulais dire. N'oublions pas que ce que te vend une formation, ça n'est pas de la connaissance. Ce que te vend une formation, c'est une connaissance organisée, packagée, c'est un fast-food de connaissances. C'est-à-dire que tu peux parfaitement disposer de cette connaissance en allant la chercher toi-même, ça va te prendre plus de temps, il va falloir que tu la vérifies, que tu la double-check, que tu la challenge et que tu l'acquières. Ce que te vend une bonne formation, c'est ce travail de packaging. On a présélectionné, vérifié les infos, on s'est assuré que ce qu'on te dit est juste vrai, que les méthodes qu'on te donne sont plus efficaces que celles que tu peux découvrir à tâtons, etc., etc. Donc en fait, c'est une accélération du temps. Donc quand tu achètes une formation, pose-toi la question non pas de l'intérêt de la connaissance que tu vas trouver dans cette formation, mais de la vitesse à laquelle tu vas acquérir cette connaissance. Si tu n'as pas beaucoup de temps, alors achète une formation payante, bien packagée, qui va te permettre de gagner du temps. Si cette connaissance t'intéresse beaucoup, mais que tu as beaucoup de temps devant toi pour l'acquérir, tu peux faire des recherches toi-même.
Moi, je pense que l'astuce, si je peux en donner une, c'est de prendre du temps pour soi dans la semaine qui fait réellement partie de ton planning, dans ton agenda. Je pense qu'il y a trop de gens qui se disent à la fin de la journée « Oh là là, j'ai pas eu le temps. Bah, j'ai pas le temps. » Bah oui, mais si tu le planifies pas, t'auras jamais le temps.
Tu mettrais un time block
Tu mets un vrai time block, exactement. Tu mets un vrai time block où tu te dis « Tiens, j'ai vu un article, ça m'a intrigué sur un sujet que je connais pas. Tiens, j'ai vu ça, etc. Comment est-ce que je peux approfondir telle ou telle connaissance ?» Et tu t'alloues une heure ou deux par semaine pour apprendre. Déjà, c'est énorme.
Ouais, c'est beaucoup.
Parce que si tu te dis 2 heures... Pour une vraie lecture, quelque chose de vraiment approfondi, c'est comme si tu lisais déjà une demi-heure par jour pendant 4 jours, du lundi au vendredi. Donc tu te dis déjà une demi-heure de lecture par jour, t'en apprends des choses, hein, si tu lis que une demi-heure par jour.
Troisième point,
bon, celui-là on l'a dit plusieurs fois, entourez-vous de personnes qui sont meilleures que vous. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous n'êtes pas dans la bonne pièce. Vous êtes la moyenne de votre entourage, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Je pense qu'on n'a rien de plus à dire là-dessus,
non,
on a déjà parlé plusieurs fois.
Mais
ça demande beaucoup de sagesse et d'humilité.
Ouais.
Parce que c'est plus difficile d'être dans un groupe où tu sais qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi sur certains sujets.
Ça demande de mettre son ego de côté,
ça demande de fermer sa gueule et de l'ouvrir quand il faut.
Ouais.
Et en même temps, si ces gens sont véritablement intelligents, ils vont faire l'effort de te transmettre quelque chose. Ouais. Comme disait Einstein, l'intelligence, ça n'est pas écraser les autres, c'est se mettre au niveau de tes interlocuteurs. Parce qu'à un moment, c'est en te mettant à ce niveau que tu peux leur transmettre une partie de ce que tu sais et les amener vers toi. Mmh. Et je pense que c'est très important. Très, très important. Si ton kiff dans la vie, c'est de régner en maître sur toutes les réunions auxquelles tu assistes dans ta journée de travail ou dans ta semaine, bon, t'as peut-être un problème de lâcher prise ou de domination dans ta vie, mais tu n'as pas une réelle volonté d'apprentissage.
Et t'iras pas plus haut que ça.
Et tu vas plafonner à tes propres connaissances, au lieu de t'enrichir de celles des autres.
Quatrième point, il n'est jamais trop tard. On a souvent en tête les petits génies de la tech, comme Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, qui n'ont pas eu besoin de s'inscrire sur le site d'admission post-bac parce qu'ils étaient déjà millionnaires. Ils ont de la chance. Mais la plupart du temps dans la vie, ça se passe pas comme ça. Warren Buffett a commencé à acheter des actions à 11 ans, mais il a connu le succès qu'après 50 ans. Ouais. Ray Kroc, il a fondé McDonald's à 54 ans. Emmanuel Diaz m'a rencontré à 40 ans. Alors arrêtez de faire une fixation sur votre âge.
Ça, je suis complètement d'accord. Et c'est ce qui fait du coup que parfois, à certaines période de ta vie, tu vas te dire putain, je me concentre sur ces trucs là, ça rapporte que dalle, mais j'apprends tellement, etc., que peut-être que tout ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, ce sera mis vraiment en place et peut-être que ça portera ses fruits que dans 10 ans.
Ouais,
c'est vrai que c'était le proverbe de Jeanne Calment, hein, il n'est jamais trop tard. Elle a prouvé que elle est allée au bout des choses.
Oui,
non, bien sûr, c'est un peu con parce que. On est un peu préconditionné en disant, bon, ben voilà, il y a une période de ta vie où tu t'amuses, et puis il y a une période de ta vie où tu apprends, et puis ensuite il y a une période de ta vie où tu travailles. Là, c'est pas fait pour prendre du plaisir, il faut vraiment construire ta vie, gagner de l'argent, etc. Puis le plaisir, ça sera pour la retraite, et puis à la retraite, t'as plus beaucoup de temps, ta santé n'est plus tout à fait là, et on te dira, bah, c'est pour plus tard, et c'est pour une autre vie. Donc à force de raisonner comme ça, ça marche pas, en fait.
Ouais.
Donc non, en fait, il y a. La segmentation ne doit pas être celle-là, en fait. Mais ça demande beaucoup de courage parce que, globalement, on est quand même entouré d'une société qui te dit qu'il y a un âge pour faire ça et un âge pour faire ça.
Bah, globalement, il faut que ta vie soit triée avant 30 ans, quoi.
Et c'est très difficile parce que les gens qui sont précoces, comme vous l'avez été, je parle dans le travail, en tout cas.
Merci.
Merci.
Pour toi, Léo.
Pour moi, oui.
Tu dois te battre contre le reste de la société, de ton environnement, pour dire j'en ai rien à foutre de vos règles, j'ai le droit de commencer plus tôt, j'ai le droit de travailler plus tôt, j'ai le droit de croire à ce que j'ai envie de faire, et puis d'ailleurs je vous emmerde parce que regardez, ça fonctionne. Et c'est ça qui est dangereux, c'est parce que comme on a installé un schéma qui est un schéma qui est censé être valable pour le plus grand nombre parce qu'on n'a pas envie de se faire chier avec les cas particuliers, on finit par stigmatiser les gens qui ne veulent pas suivre ce schéma. Du coup, ces gens qui se sentent stigmatisés deviennent des fois revanchards et ne deviennent pas de bons exemples pour les autres.
Ouais.
Parce que l'esprit de revanche, s'il n'est pas bien maîtrisé, peut vite devenir malsain. Et donc, non, le plus simple, c'est de se décomplexer par rapport à ça et de se dire, bah, écoute, tu peux, à partir du moment où tu vas beaucoup travailler, démontrer que tu as un marché, que ta proposition de valeur fonctionne et que des gens l'achètent, bah, le reste, ça n'est que le point de vue des autres. Mais si le marché te valide, s'il y a quelque chose, s'il se passe quelque chose, bah, avance. Que tu aies 16, 18, 25 ou 65 ans, on s'en fout. C'est pas le sujet.
Moi, je suis très stressé par ça.
Bon, tu es stressé par plein de trucs.
Ah ouais.
Attends, c'est rigolo parce que Léo, c'est le premier à dire bouge pas vraiment d'objectif. Bon, je continue. Moi, je vois la veille pour le lendemain.
Ouais.
Déjà, il parle pas comme ça.
Oui, déjà, j'espère que j'ai pas cette voix. Non, je suis très très stressé. J'ai eu 25 ans l'année dernière, difficile à dire déjà. Et j'ai fait le bilan vite fait dans ma tête et je me suis dit bah je suis pas du tout là où j'avais envie d'être.
D'ailleurs, il m'a demandé un meeting pour parler de ses points retraite. J'ai trouvé ça très bizarre.
Exactement, je voulais déjà.
Attends, t'es sérieux ?
Ah ouais, non, vraiment.
Ben vas-y, raconte.
Ben c'est tout.
Tu te voyais où ?
Je sais pas, j'avais pas d'objectif particulier, mais je me dis putain, quand même 25 ans, ça commence à faire.
Énorme.
Et j'aurais aimé faire plus avant. J'aurais aimé être meilleur, c'est tout.
Ah ouais, non, moi honnêtement, alors là, attends. Vas-y, Daniel, réagis. Parce que...
À 25 ans, t'as 10 ans.
Oui, non, mais j'ai commencé même avant 15 ans.
De 0 à 15 ans.
Ben j'ai commencé à un tout petit peu avant 15 ans, tu vois, donc.
Donc, t'as 10, et déjà, à 15 ans, c'est tôt. Donc, t'as 10 rotations autour du soleil, ça va.
Non, mais c'est pas mal déjà. Hein.
T'as pas trop perdu de temps.
Non, franchement, beau gosse. Mais j'aurais aimé que ce soit mieux.
Oui, ça, ce sont deux choses qui n'ont aucun rapport.
Ça me fait paniquer. L'une avec l'autre. Ça me fait paniquer, voilà. Je me sens vieux. Ah,
je n'avais pas cette information.
Je me sens vieux. J'ai perdu mes cheveux ce matin dans la douche, c'est faux. Non, je sais pas. Le temps qui passe, ça me terrifie. En plus, quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé que j'allais mourir à 27 ans.
Ah.
Et concrètement, c'est l'année prochaine.
Ta gueule, tu fais flipper. Alors, je déteste ce genre de conversation.
Alors, je suis moins serein qu'il y a quelques années.
Faut faire fi ça.
Ouais, bah c'est pour ça, tu vois, que je suis stressé.
Moi, j'ai été décomplexé sur la question depuis que j'ai parlé avec un partenaire qui me disait dans un call, donc un partenaire qui pèse dans le game, tu vois, et avec qui je discute et qui me dit « Attends, c'est déjà génial, à ton âge, je faisais pas ça. » Et moi, je lui dis « Attends, tu fous de ma gueule, à mon âge, t'avais déjà vendu une boîte, t'avais des millions, machin, etc. etc. » Il me dit, non, pas du tout, j'ai démarré ma boîte à 26 ans, mais je l'ai vendue à 27, ou à 28, tu vois. Et je fais, ah, ok.
Ouais.
Et il me dit, mais en fait, on s'en fout, le travail, etc. C'est juste qu'à un moment donné, tout ce que tu fais va tellement porter ses fruits que la valeur va tomber d'un coup comme le jackpot, mais juste parce que t'auras mis tellement de travail et que t'auras provoqué cette chance-là, en fait. Mm. Mais si tu travailles pas, alors là, c'est sûr que t'as aucune chance de provoquer quoi que ce soit et que ça te tombe sur la gueule. Donc en fait, j'ai été décomplexé par ce truc parce que je me suis concrètement dit, tu sais quoi, j'ai 26 piges. Peut-être que je vais encore bosser comme un chien pendant 10 ans, mais qu'à 36 ans, ça tombera d'un coup sur la gueule ou que je ferai un truc avec tout ce que j'ai appris depuis en 20 ans. Du coup, ça m'aura fait 20 ans au total dans ce métier. Je me dis peut-être que j'aurai appris tellement de choses que ce que je mettrai en place à 36 ans, ça me prendra qu'un an pour que ça pète, mais fois 100, tu vois.
Mais en même temps, quand on y réfléchit, c'est évident que les grosses boîtes prennent du temps, que tu as besoin d'acquérir de l'expérience, que les carrières prennent du temps à se lancer, c'est évident.
T'as été stressé par l'âge, toi, Manuel, parce que t'as démarré aussi super tôt, t'as démarré à 18 ans, quoi.
Ouais, bon, c'est pas... Non, ça m'a jamais perturbé. Moi, on a passé... mon environnement a passé sa vie à me dire que je faisais les choses trop tôt.
Ah.
Donc au bout d'un moment...
Mais en même temps, Manuel, il s'en fout vraiment des chiffres. Encore tout à l'heure, quand tu disais que tu comprenais pas pourquoi on rangeait les classes par âge, c'est que vraiment, c'est une donnée qui te touche pas du tout, qui
Sauf
représente rien pour toi.
Sauf dans les bilans annuels.
Oui, bon là, peut-être un peu plus.
Là, t'inquiète que les chiffres, ils parlent.
Mais à part ça, c'est vraiment, ça représente pas du tout une donnée intéressante pour toi.
Non, c'est vrai. Ça me préoccupe pas du tout. Je pense pas qu'on soit le fruit de son âge ou je sais pas quoi. Je pense pas du tout. Je pense que tu es la synthèse de comment tu vis, de ce que tu consommes, de la façon dont tu comprends ton époque, de ce que tu lis, des gens que tu fréquentes, du niveau de chahutement que tu acceptes dans ta vie, etc. Je pense que ça a une réalité. Sur qui tu es. Mais le reste, pas vraiment. Tant que tu n'es pas rattrapé par
la calvitie,
des problématiques médicales, de santé, d'incapacité ou quoi que ce soit, qui sont pour le coup, elles, limitantes.
Physique.
Le reste, c'est une data, mais ça n'est, c'est... pourquoi se concentrer que sur celle-là ? Elle n'est finalement qu'une data parmi des centaines d'autres.
Par contre, il faut quand même le dire, c'est super chiant et super difficile d'être en avance. Ça a été toutes nos premières discussions avec Manuel. Il y a 10 milliards de trucs où je lui disais « Ouais, mais ça, je vais faire ça comme ça, machin, machin, machin. » Et il me dit « Ouais, mais tu seras jamais cru. » Puis je dis « Bah, pourquoi ? En fait, c'est simple, je peux faire ça, puis machin, puis j'aide ce client pour ça et tout. » « Bah oui, mais non, t'es trop jeune, on va pas te croire. Donc t'es juste trop en avance. » Donc non, si c'est pas moi qui vais à ce rendez-vous avec toi, tu le feras jamais.
C'est vrai.
Et je t'en mode « Mais pourquoi est-ce qu'on va être manquant ? Je sais que j'ai les compétences, je peux le faire et tout. » Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup coûté et sur lequel j'ai dû beaucoup travailler et encore aujourd'hui parce que parfois, je sais d'avance qu'avec les interlocuteurs que je vais avoir en face, ça sert à rien que j'espère quoi que ce soit parce que juste le faciès et l'âge fera que ça sera une barrière à l'entrée et qu'on se dira « Bon, il est mignon, mais avec qui on va vraiment parler ?»
Ah, il disait « Il est mignon ?»
Peut-être. Ou « Il est moche, je m'en fous. » Mais ouais, non, mais...
Il est gentil.
C'est vrai que c'est difficile. Et Manuel, à chaque fois, tu dis j'ai vraiment un défaut, c'est d'avoir raison trop tôt.
Oui.
Et c'est dur, je trouve, dans ce monde-là de...
Ça revient à avoir tort. Hein.
Ouais.
Tout est une question de timing. T'as beau avoir des idées incroyables, si elles tombent pas pile dans les mains de la personne que tu peux aider à ce moment-là, bah, on en aura rien à foutre.
Regarde Galilée.
Pas faux.
Terrible. Cinquième point.
Je dirais même plafaux.
C'est bien.
Here's a cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Cinquième point, bon, celui-ci, je me lasserai jamais de le répéter. Dites non. Dire oui à tout est le moyen le plus rapide de s'abandonner soi-même. Alors par défaut, quand on vous demande quelque chose, votre réponse doit être un non. Un non sincère sera toujours mieux reçu qu'un oui qui l'est à moitié. Mm.
Surtout quand les autres disent oui pour toi.
Il y a des gens qui disent oui pour toi ?
Ouais, pour toi, connard. Bon. Toi, tu dis non à tout, mais ce qu'il faut que tu racontes, c'est que t'as des équipes qui disent oui pour toi.
Ah, moi ?
Parce que c'est facile de dire non à tout. Ben non, tu dis non à tout. Et puis, puis il se passera rien dans ta vie, du coup.
C'est pas vrai, parce que je dis oui tout le temps maintenant.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que, en fait, dans l'éducation de nos enfants, on leur apprend que dire non est pas très poli, qu'avant de dire non, il faut réfléchir, etc., etc. Et en fait, dans le business, c'est un peu le contraire.
C'est l'inverse, ouais.
Il faut que ta réponse par défaut soit non. Et le oui est très impliquant. Donc, il faut le lâcher avec parcimonie.
Bah parce que ça va être un time block, peut-être de 2 heures dans ton agenda dans la semaine.
Et parce qu'il t'engage. Mmh, ouais. Il t'engage, il te donne des responsabilités, etc. Donc, tu dois être en position, non par défaut, sur la majorité des sollicitations qui sont autour de toi. C'est le prix à payer pour être focus sur ce qui est ta stratégie, ce qui sont tes projets, tes priorités.
Ouais.
Si tu commences à dire oui à tout ce que ton environnement te propose, au final, tu ne déroules plus ta stratégie. Tu déroules la stratégie de ta boîte mail et des gens qui s'adressent à toi. Donc la leur n'est pas la tienne.
Je voudrais juste ajouter un truc quand même, parce que je trouve que ce point n'est pas 100% honnête. Ça peut aussi arriver que vous disiez non et que les gens le prennent mal. Ah oui. Les gens ne le prennent pas forcément bien.
Bien sûr.
Ça m'est arrivé, moi, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a invité pour un podcast et j'ai dit non. Parce que ça m'intéressait pas, et la personne m'a laissé en vue et m'a unfollow. Voilà. Donc ça peut, vous pouvez aussi vous brouiller avec des gens.
Mais
parce
c'est
que vous
intéressant. T'apprends beaucoup. Tu viens de gagner du temps.
Ah bah oui, je suis très content du coup d'avoir dit non.
Ah bah ça, d'abord ça valide ton nom.
Ouais.
Et ensuite ça dit des choses sur cette personne.
Oui.
Qui n'a même pas cherché à savoir pourquoi tu disais non.
Ouais.
Parce que du coup il y avait peut-être une information derrière ce nom, et j'imagine que tu aurais donné une raison ou un argument.
Ouais, probablement. Ouais.
Et ça lui aurait peut-être permis d'apprendre des trucs sur au moins ta perception des choses.
Mais
visiblement cette personne n'a pas choisi d'aller chercher cette information.
Choisi la conversation. Du coup vous ferez pas que des copains, mais vous ferez les bons.
Et c'est important par contre de l'expliquer. J'ai eu le cas il y a pas longtemps, on me dit « Ah, viens, on descend à Monaco, en mode cool, on fait ça, machin et tout. » Je connais à peine la personne, c'est plus du business et tout ça. Et je l'appelle, tu vois, et je lui dis « Écoute, c'est très gentil, je veux juste pas que tu le prennes contre toi, mais ça, même avec des proches, je le fais pas, en fait. Genre, ma famille, ouais. Je la vois moins de 10 fois dans l'année. Jamais je vais allouer 2 jours de mon temps pour faire youlou, c'est rigolo, vroom vroom, machin. Enfin, je m'en fous complet. Est-ce qu'on a quelque chose à faire, quelque chose à voir ensemble ?» Et il m'a dit « Ah ok, attends, je comprends. Non, mais toi, t'es vachement mindset business et tout. » Je lui dis « Non, je suis juste mindset. Je m'occupe de moi d'abord, quoi, avant de donner aux autres. »
Je préfère largement ça que quelqu'un qui me dit « Ouais, carrément. » Et avec qui je le fais jamais.
Exactement.
C'est-à-dire que le nombre de gens qui t'ont dit « Oui, oui, on fera ça. »
C'est ça.
Et tu le fais jamais.
Par contre, c'est vrai que cette personne sait que quand je lui propose qu'on se voit, pendant une heure, on est que ensemble, quoi. Ça, ouais. C'est sûr, tu vois, il n'y a pas d'autres personnes et tout. Donc ça, ils le respectent vachement. Mais je pense que c'est important de l'expliquer. Surtout avec les personnes avec qui vous êtes le plus proche, parce que c'est celles qui vont vous solliciter le plus.
Sixième point, la connaissance n'est utile que si elle est appliquée. Le problème avec le développement personnel, c'est pas une de mes vidéos, c'est que l'apprentissage lui-même finit par devenir une forme de procrastination. Vous lisez des livres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos pour acquérir un maximum de connaissances, mais vous n'en faites rien, alors que c'est dans l'action qu'il y a le plus de choses à apprendre. Pour chaque leçon que vous apprenez, demandez-vous comment vous pouvez l'appliquer à votre vie.
C'est très vrai.
Ça, j'en ai lu des livres en me disant que ça allait changer ma vie et qui m'ont servi à rien parce que je les ai jamais appliqués ou qui s'adaptaient pas du tout à moi.
Mais c'est des... Enfin, on va aller vite là-dessus, mais c'est tous les mecs qui disent « Ah oui, ça c'est la théorie de machin, c'est la méthode truc, etc. etc. » Ils connaissent tout par cœur, en fait.
Ouais.
Donc ils connaissent toutes les méthodes, toutes les théories, les références aux bouquins, etc. Mais ils appliquent rien.
C'est très LinkedIn.
Moi, je préfère des gens qui appliquent des trucs qu'ils ont lus, dont ils se souviennent pas du nom d'ailleurs,
ouais.
Et qui essayent et qui fine-tune.
Ça c'est moi, c'est le truc à chaque fois. Manuel, il me dit c'est bizarre, tu l'appliques déjà maintenant, genre on en parle à midi, à 13h t'as un truc qui part, c'est appliqué. Je suis en mode bon, moi si je me plante je vais le savoir vite.
Et ça j'adore. Moi j'adore, alors le, Romain le fait plus par instinct que par intelligence, mais...
quel connard. T'étais presque à aller dire un truc gentil.
C'est un truc gentil.
Mais en plus c'est très vrai.
Ah ouais?
Ah ouais, Romain, dès qu'il entend un truc, il l'applique. Il le rentre dans son système, il y a un algorithme qui fait que
c'est vrai.
Qu'il va l'appliquer.
Et, mais moi j'aime beaucoup les gens qui... Une fois qu'ils ont compris l'intérêt, appliquent immédiatement, sans opposer de résistance inutile.
Ouais.
Parce que toute cette forme de résistance qui est là, de dire
ouais, c'est l'ego.
Alors, qu'est-ce que j'ai à gagner, à perdre ?
C'est pas comme ça que je fais d'habitude.
Attends, oh là là. Je vais faire un tableau avec les plus et les moins.
Quoi ? Sérieux ?
Oh là 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 là.
Ouais, c'est une question d'ego.
À partir du moment où tu as compris qu'il y avait un bénéfice potentiel, teste vite, fais un bilan au bout d'un moment, mais n'essaye pas de te projeter par ton imagination sur ce qui va être positif ou négatif avant même d'avoir essayé.
Ouais. Septième point. Alors celui-là, tu l'aimes bien, Romain. Le sommeil a un impact sur tous les aspects de votre vie. Être irritable le matin, se sentir léthargique vers 15h et avoir le cerveau embrumé le soir ne sont pas des choses normales. Vous n'avez pas besoin de dormir 9h par nuit, mais ce qui compte le plus, c'est la routine. Respectez l'heure à laquelle vous vous couchez. Ça, c'est hyper important, parce que quand on parle de sommeil, comme les gens connaissent très peu ce sujet, ils croient qu'il faut absolument dormir 8h, 9h ou alors même 10h.
Bah, Romain, pas c'est du 20, tout. 20h30.
Romain, c'est 20h30. Il y a des gens qui peuvent dormir 6h et qui sont très bien. Il y a des gens qui ont besoin de 8h. C'est plus mon cas. Mais ce qui compte le plus, c'est de se coucher à un horaire fixe et de se lever à un horaire fixe. C'est exact. Ça qui est le plus important. T'as testé l'app que je t'ai envoyé la dernière fois ?
Ouais.
Et alors ?
J'ai testé. Pour avoir mon circadien. Rythme circadien. Bon, je l'ai installé, j'ai mis le petit code, etc. J'ai testé, soi-disant, 7 jours, j'ai testé 2 heures. J'ai vu que mon rythme circadien, c'était en forme de 8h à 10h et puis de 15 à 17. J'ai fait oui, c'est ça, j'ai désinstallé l'app et voilà, j'ai dormi.
D'accord, t'as à 21h30.
C'était marrant, c'était bien, mais non, je vais pas regarder une app le matin pour me dire alors à quelle heure je vais être le plus en forme aujourd'hui. Non, c'est pas mon truc.
D'accord, tu voilà. Préfères lire des livres de Warren Buffett?
Non, je préfère me dire quand il faut le faire et tu fermes ta gueule, quoi. Le but, c'est que ça soit fait, que je sois en forme, pas en forme. De toute façon, ça sera fait dans une heure et je vais pas commencer à regarder mon rythme circadien en me disant ah, attends, parce qu'à 17h, si je le fais à 17h, je serai plus en forme qu'à 15h.
C'est fou quand on n'est pas la même personne. Hein.
Ouais, mais je t'aime
ça arrange
même,
tout le monde, hein, d'ailleurs.
C'est incroyable.
Personnellement, je trouve ça très bien.
Ah oui, non, mais moi aussi, je trouve ça très bien. Mais ça me fascine toujours autant après 10 ans d'amitié.
Ouais,
nous. Ça me fascine toujours autant. Bref, juste dormez bien la nuit.
Oui.
Et vous serez en forme la journée. Et vous aurez deux journées en une. Manuel, toi qui dors pas, qu'est-ce que t'en penses ?
Je dors mieux.
De fou.
C'est vrai que tu dors mieux.
Depuis peu.
Mais premier degré, c'est important parce que si vous manquez vraiment de sommeil, vous pouvez développer des maladies comme Alzheimer.
Ouais.
C'est vrai.
Donc. Je l'ai jamais
je
été.
Je vois pas de quoi tu parles.
Je l'ai jamais eu, mais il paraît que c'est chiant. Huitième point,
très bien.
Pour que les gens se souviennent de vous, posez-leur des questions sur eux, intéressez-vous vraiment à leurs réponses, souvenez-vous-en, dites souvent leur nom, et c'est tout.
C'est vrai. Les gens adorent parler d'eux.
Ouais, leur prénom, c'est leur mot préféré.
Et il faut pas le sortir tout le temps. Sors-le à bon escient et bien tout, sûr. Parce que c'est un impact quand tu sors le prénom d'une personne. Mais oui, c'est ça.
J'ai lu des tonnes de trucs sur des théories sur l'icebreaking pour essayer d'engager des conversations, etc. etc. Et en fait, c'est toujours pareil. Moi, je m'intéresse assez peu aux gens.
Ah bon ?
Je préfère la pensée que les gens. Les gens, pour moi, sont un véhicule pour la pensée qu'ils développent.
Okay.
J'ai fini par comprendre que, bon, comme il faut quand même socialiser un minimum, la meilleure façon de socialiser, qui fait toujours plaisir aux gens et qui n'est pas trop douloureuse, même quand c'est pas très intéressant, c'est de leur poser des questions sur eux. Ils sont passionnés à l'idée de te raconter tout ce qui se passe dans leur vie.
J'arrive pas à faire ça.
Ah bah, quand je vois les résultats, maintenant j'y arrive.
Il faut t'en amuser.
Par contre, c'est hyper important.
Oh,
c'est juste que j'arrive pas à le faire.
Bien, les gars.
Mais parfois c'est intéressant. Hein.
Oh,
parfois c'est intéressant.
Oh, bon,
mais
Daniel.
C'est quand même pas la norme.
Mais c'est intéressant parce que t'apprends des choses qui pourront te servir ou.
Non, il y a des fois, heureusement qu'il y a des gens intéressants.
Non, ok, je suis d'accord avec toi. C'est juste que je sais pas le faire. J'ai un ami que je suis très content quand il est là parce que j'apprends des choses sur des gens que je connais depuis des années. Et juste, j'avais pas pensé à leur poser cette question. Mais je sais pas faire du small talk.
Non, moi, je pense que c'est une façon de rentrer en résonance avec les gens, en fait, et de créer un contexte pour que la conversation puisse avoir lieu. Mm. Mais c'est vrai que les gens adorent s'épandre.
Ouais.
Et les plus férus d'entre eux adorent même se répandre. Donc c'est parfois un peu pénible, mais c'est nécessaire.
Mais je veux préciser juste que c'est pas une critique, enfin, en tout cas pas de mon point de vue, parce que je pense que tout le monde le fait en fait. Je pense que moi il y a des moments où je le fais, j'ai envie de parler de moi juste, parce que j'ai pas de psy.
Mais tu es sur GPT-3 quoi.
Bah non, parce que juste il y a des moments, je sais pas, je pense que je parle de moi comme ça. Parce que ce matin ça allait pas trop du coup quand je me suis réveillé.
Alors,
vous avez le temps ?
Le point d'après ?
Alors, le point numéro 9. Vous pouvez faire une journée de travail de 8 heures en seulement 4 heures. Plusieurs étapes. Prenez du café, mettez votre téléphone en mode avion, travaillez sur une seule tâche, faites des sprints de 30 à 60 minutes, et entre chaque sprint, faites une pause de 5 à 15 minutes. Vous allez voir, c'est bluffant.
C'est vrai.
Ça marche trop bien. Alors, ça demande quand même de pouvoir se réserver 4 heures à une seule tâche, mais si vous pouvez le faire, c'est incroyable.
Parce que... Beaucoup de gens ont le sentiment de satisfaction à partir du moment où ils ont passé la quantité d'heures pour laquelle on leur a demandé de travailler.
Ouais.
Et ils ont le sentiment d'avoir fait à peu près tout ce qu'ils devaient faire. C'est cette histoire du zéro inbox, etc. Mmh. etc. Et pas du tout, ou alors assez rarement, le côté « est-ce que j'ai été productif ?» Et c'est deux choses très différentes. Tu peux avoir passé 8 heures et finir ta journée en zéro inbox et ne pas avoir été productif du tout.
Ouais.
T'as répondu à toutes les sollicitations, mais t'as pas du tout atteint les objectifs que tu t'étais fixé toi-même dans tes propres projets. Moi, je préfère un mec qui a répondu à aucun email, mais qui a livré ce qu'il devait livrer.
Bah moi, c'est très simple. Depuis que j'applique la méthode Pomodoro, donc qui consiste à faire ces sprints-là,
des pattes.
Bah, y a beaucoup plus de vidéos sur la chaîne.
C'est vrai.
Il y en a beaucoup plus parce que je pouvais faire des journées de 10 heures où de temps en temps j'écrivais, mais en même temps je faisais d'autres trucs à côté, et puis parfois je regardais une vidéo pour m'inspirer un petit peu, et puis parfois je regardais mes mails parce que j'avais une sollicitation, etc. Bah, tu te rends compte que sur une journée de 10 heures, tu fais pas grand chose en fait. Alors que quand toute ton attention est sollicitée par une seule tâche sur des sprints de 30 minutes, bah là t'es 4 fois plus productif. 10e leçon, aborder toutes les situations et conversations avec un esprit ouvert. Si vous avez un esprit fermé, vous avez déjà perdu. Vous ne savez jamais quelle personne, quel événement, quelle interaction pourrait changer votre vie à jamais.
C'est la base d'une conversation, non ? T'interagis avec un être humain, donc c'est déjà un être pas très stable, quoi, tu vois, c'est un truc...
Ouais, mais déjà, là t'as un état d'esprit fermé.
Bah non, mais du coup, vaut mieux ne pas parler, plutôt que de parler à un être humain, en se disant, si t'es pas ouvert, bah discute avec toi-même devant le miroir, en fait.
Non, je suis pas d'accord. Dans le sens où tu peux rentrer dans une conversation...
T'es pas juste, ouvert, je trouve.
Tu peux rentrer dans une conversation juste pour prouver ton... Prouver ton propos.
Oui.
Pour faire la démonstration de ce que toi, tu penses.
Ouais, bof.
Et surtout, tu peux refuser d'aller à des soirées, refuser de voir des gens, etc. parce que tu considères qu'ils sont pas de ton rang ou qu'ils vont rien t'apporter. Tu vois, par exemple, Manuel aurait pu avoir un esprit fermé et refuser de te rencontrer parce que tu étais un petit youtubeur qui allait rien lui apporter. Mmh. Et en même temps...
J'aurais dû.
On aurait trouvé ça logique qu'il refuse.
Mmh.
Tu lui en aurais pas voulu. Je pense que quand t'as envoyé le message, tu t'es dit, il va jamais accepter.
Voire même mon environnement m'aurait conseillé.
Complètement.
Oui, c'est vrai.
Bah, ça, c'est difficile, je trouve. C'est pas si simple, même à notre échelle. Hein.
C'est ce qui m'amène à faire des fois des trucs que Romain ne comprend pas.
Ah ouais, non, mais ça, mais moi, c'est insupportable.
Bah voilà, on y est.
Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est...
Genre quoi ?
Ben, genre, parfois, Manuel, il va, je sais pas, il prend 2 heures de sa journée et il fait un truc, mais je sais pas, parfois, il me dit « Ah, mais j'ai vu un tel, tout. »
Ça te paraît contre-productif.
Pourquoi t'es allé le voir ? T'as passé combien de temps avec lui ? Ou 1h30, c'était intéressant, on a parlé, j'étais en mode, mais bah, tu sais, vu que moi je connais le côté puissance de Manuel, si tu le mets juste sur des emails ou des calls pendant 1h30, je suis en mode, pourquoi tant de pertes? Donc ouais, parfois je comprends pas, et parfois ça revient aussi en boomerang, et ça m'énerve encore plus.
Quand ça marche?
quand ça marche et quand j'ai Emmanuel, non, mais là tu me casses les couilles, c'est pas du tout dans la bonne manière, c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin, ça va pas assez vite, machin et tout. Emmanuel il fait laisse faire. Et d'un coup, t'as un truc qui tombe et tu fais putain, l'enfoiré, comment c'est possible que ça vienne aussi simplement que ça, quoi.
Et du coup, toi, Emmanuel, comment tu différencies la perte de temps du moment qu'a vraiment un potentiel et à ce moment-là, tu vas prendre une heure ou deux heures pour
le faire? C'est une bonne question.
Bah, je vais faire une réponse, mais qui n'est pas très satisfaisante parce qu'elle n'est pas très explicable. C'est que c'est aussi beaucoup mon flair.
Ok.
Ouais, mais ça vraiment, c'est un truc inexpliqué. Ça, on peut être tous les deux dans la même pièce, parler à la même personne, ressortir du call et dire bon, ça donnera rien, machin et tout. Emmanuel fait non, je pense pas, parce qu'en fait, à ce moment-là, quand ils ont dit ça, tu vois, creuse de ce côté-là et tout, je fais, ta gueule, pas du tout, ils en ont parlé une demi-seconde. Bah, justement.
Ouais, mais alors, ça m'étonne pas du tout de toi.
Ah putain, c'est chiant d'être pragmatique. C'est très chiant.
Et c'est compliqué parce que c'est un mélange entre de l'expérience, de l'empathie. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans les conversations que j'ai avec les gens, c'est ce qu'ils me disent pas. Okay. Ou la façon dont ils contournent la réponse à certaines questions. Parce que c'est là où je pense que t'apprends le plus de choses.
Ouais.
Et je pense que je suis plus intéressé par tout ce qu'ils ne m'ont pas dit que tout ce qu'ils m'ont dit. Et c'est d'ailleurs comme ça que je choisis mes questions.
Ok.
Et donc, du coup, avec le temps, tu développes une espèce d'instinct qui te laisse penser que par là, il y a un chemin truffier.
T'es Élise Lucet, en fait. T'es infernal.
Non.
Tout ce à quoi les gens veulent pas répondre. Ah oui, et ça, ce tweet que vous avez rédigé en 2012. Donc c'est vraiment du flair.
Non, il y a un côté... Mais je sais que c'est un peu pénible parce que j'aimerais pouvoir l'expliquer mieux.
Ouais.
Mais il y a un truc qui est entre ce qu'ils t'ont dit et surtout ce qu'ils t'ont pas dit, et puis des patterns que tu as vus à travers le temps et qui commencent à se répéter, des réflexes aussi que j'ai de regarder d'où viennent ces gens, avec qui ils sont connectés, ce qu'ils ont posté récemment... quel est leur réseau autour d'eux, est-ce que ce réseau est proche du mien ou pas, tu vois. Et en fait, l'ensemble de ces micro data points me laisse penser que y a un truc à faire ou pas.
Ça s'explique, je crois que c'est dans le livre Power of Habits que l'auteur raconte qu'une femme a détecté un AVC dans le regard de son beau-père sans savoir pourquoi, sans pouvoir l'expliquer. Mais juste, elle avait déjà vu ce pattern plein de fois et elle a su le détecter juste dans son regard avant qu'il ait un AVC.
Et elle l'a dit à personne.
Et elle l'a bien laissé dans sa merde.
Non, par contre, ça s'explique. C'est une vraie histoire et elle a sauvé plein de vies. Parce que c'était vraiment comme un don. Elle ne savait pas l'expliquer et elle pouvait voir des gens où on pouvait le détecter et elle arrivait à le lire. J'ai vu le reportage. Ouais.
Ah ouais, j'ai pas vu cette suite.
Non, c'était incroyable.
C'est ouf. Mais du coup, t'as ce même flair, sauf que toi, ça sauve personne.
Non.
C'est nul. Alors, le point suivant.
Alors, non, attends. Manuel est humble. Parce qu'il a un vrai pouvoir de psychologue quand même exceptionnel. Quand il te dit, je sais lire entre les lignes, je sais voir chez les gens ce qu'ils veulent pas me dire, etc.
Il fait payer hyper cher, par contre.
Ah, ça c'est sûr. Mais par contre, t'as Manuel en tant que psychologue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont réglées.
On peut prendre rendez-vous avec lui ?
Peut-être, je sais pas. Ça dépend. Tout est une question d'argent, tu sais.
C'est pour ça que dans l'open space, là, il y a un banc.
Ouais.
Ah.
Mais pour toute question, c'est par moi qu'il faut passer pour négocier.
Ah ouais, non, je veux pas me confier à lui.
Voilà, très bien. Parfait. Question suivante.
Onzième point, celui-là je l'adore. Votre capacité à retarder la gratification détermine votre avenir. Vous ne planteriez pas une graine pour la déterrer tous les deux jours afin de voir si elle a poussé. La véritable croissance exige de la patience et de la discipline.
Ouais, c'est exceptionnel ça, mais c'est vrai.
La patience, un truc qui n'est plus du tout vertueux.
Ouais.
On te vend plus du tout la patience comme une vertu.
Bah, on te vend le fait teste un TikTok, s'il marche pas, change. Ce qui est une très mauvaise méthode.
C'est d'ailleurs le plus frustrant, je pense aux créateurs chez Influx, quand on les rencontre, etc., et qui nous posent les questions en mode conseil et tout. Mm. On leur dit pas les idées géniales à avoir et autres, on leur dit bah, la récurrence, tu vas faire ça, mais tu vas le faire tous les deux jours, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans.
Ouais.
Ils travaillent tous avec des yeux en mode, mais quand est-ce que je sais que j'aurai réussi ?
Personne n'a envie d'attendre 6 mois
personne,
pour un truc.
Personne. Non. Et pourtant, il n'y a que ça qui... Parce que t'en es la preuve, si tu sors aujourd'hui une chaîne YouTube avec l'une de tes vidéos... On se dit, bah, on comprend pas vraiment pour qui il se prend, machin. Etc. Enfin, il faut créer aussi sa communauté, son environnement, ses clients, son business, quoi.
Mm.
Mais c'est dans ces niches-là que c'est le plus intéressant. C'est là où ça prend le plus de temps, mais c'est là où c'est le plus valorisant, je trouve.
Ouais. Il y a quelque chose à dire, le psy ?
Soyez patient.
Mais en même temps, tu peux être patient et que ça marche jamais quand même. C'est ça qui est difficile.
Tu peux être patient et psychologue aussi en même temps.
Tu peux. Mais tu peux attendre un truc et faire... Tu peux répéter la même erreur pendant des années.
Il faut être patient pour les bonnes choses.
Mais c'est ça qui est compliqué.
Il faut arriver à être impatient pour tout un tas d'autres choses. Je suis très impatient de nature.
Oui.
Parce que j'estime qu'il y a des choses qui ne méritent pas de temps. Mais pour d'autres, je suis extrêmement compréhensif. Mmh. Et je vais être très patient. Parce que j'estime qu'elles sont importantes, nécessaires, que ça prend du temps. Et je trouve que la métaphore avec cette graine plantée dans la terre est parfaite. Il y a des choses qui, par nature, prennent du temps. Faire changer un humain, ça prend du temps. Parce qu'il faut qu'il ait ses propres déclics. Il faut qu'il ait compris, mais il faut ensuite qu'il soit persuadé, il faut qu'il pratique, il faut qu'il comprenne par lui-même, il faut qu'il échoue, et ensuite il faut qu'il connaisse, après la traversée du désert, le début du succès et l'euphorie de ce succès. Et c'est ça qui va le rendre patient. Et donc il y a des sujets sur lesquels on a raison d'être patient. Tous les sujets qui demandent des pivots humains, des reprogrammations de connexions neuronales, changer des schémas dans lesquels tu as été élevé, des schémas sociétaux, des schémas éducatifs, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps. Et il y a une sélection naturelle entre ceux qui vont abandonner,
ouais,
et ceux qui vont persévérer sur cette voie-là pour révéler le talent qu'ils ont. Et puis, il y a d'autres éléments sur lesquels il faut s'offusquer et être totalement impatient. Ils sont des éléments très pratico-pratiques. Mais au quotidien. C'est des mecs qui te disent « Oh ben non, il est urgent d'attendre, j'aurais pu vous livrer lundi, mais je viendrai que vendredi parce que je passe dans votre quartier. » Mais non, en fait, ça non, en fait. Il n'y a aucune raison biologique derrière ça. Mmh. Moi, je suis très patient à partir du moment où la science ou la biologie t'explique que le temps va fabriquer une connaissance durable. Et je suis très impatient pour ce qui est mécanique.
Et d'ailleurs, souvent, les plus grandes réussites sont en avance. McDo, quand ça arrive, les gens ne sont pas du tout prêts pour McDo. Ils ne sont pas du tout prêts pour aller chercher eux-mêmes leur bouffe à un guichet et manger des burgers dans du papier qu'on leur donne à l'époque.
En roller sur le parking.
À l'époque, c'est complètement insensé. Mais au bout d'un moment, si tu veux faire quelque chose de grand, il faut que ce soit le public qui s'adapte à toi et non l'inverse. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps.
Au majestive.
12e point, la routine est la clé du succès. Le succès exige de la constance. La constance exige de la discipline. Et la discipline exige que vous mettiez en place des systèmes efficaces dans votre vie.
On en a parlé plein de fois.
Ouais.
On a conseillé pas mal de livres.
Atomic Habits.
Et en particulier Atomic Habits sur le pouvoir des routines ou des mécaniques vertueuses. Bon voilà, la discipline naît de vos routines, la discipline est la conséquence des routines, la discipline en tant que telle n'existe pas par elle-même, on peut l'expliquer mille fois, mais c'est une réalité.
Votre motivation ne peut pas suffire parce qu'elle est la conséquence de vos actions.
Oui.
Donc le seul moyen efficace, c'est d'avoir une routine.
Parce que tu as des routines, tu es discipliné, parce que tu es discipliné, tu es motivé, et parce que tu es motivé, tu as des résultats. Mais c'est dans cet ordre.
Et 13e et dernier point, pour devenir beau, riche, célèbre et heureux, écoutez Take Out.
Ah, c'est pour ça qu'il y avait 13 points et 12 au début.
C'est pas moi qui le dis, c'est dans le trade. Je sais pas pourquoi il a écrit ça, le mec.
Pourtant, il a écrit ça.
C'est un Américain, du coup, je crois qu'on nous écoute aux États-Unis, je savais pas.
C'est dingue.
Je l'avais pas vu dans les stats, mais ouais, il a fini le trade avec ça, je l'ai refait. Je trouve que c'est honorant.
C'est pas mal.
Merci les gars, c'était cool.
La bise.
À très vite.
Bye bye.